Et donc, comme je vous disais, il est maintenant 5h45, vous êtes toujours à l'écoute de CKUT 90.3 et on est avec Mathieu pour la chronique des apatrides anonymes. Bonjour Mathieu.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
Ben, différents sujets regroupés principalement sous deux thèmes. On va parler en deuxième lieu des migrants qui narrachent dans différents lieux, qui essaient de se révolter aussi. En premier, on va parler un peu d'économie et d'immigration, plus au Canada. Récemment, dans le dernier budget fédéral, il y a à peu près 2-3 semaines, il y a un programme qui a été aboli à la grande surprise du patronat, entre autres, qui s'appelle le programme... c'est les programmes pour les immigrants investisseurs qui existaient depuis quelques années, qui était assez contesté, sur lequel il y avait eu un moratoire en 2012. Et là, le fédéral a décidé de abolir tout simplement en disant qu'elle est remplacée par d'autres mesures. Pour rappeler aux gens, c'est quoi ce programme-là? Ben, ces programmes-là, mais principalement la principale mesure, c'est que il offrait des visas de résident permanent aux investisseurs, donc détenant de l'expérience en affaires, possédant un avoir net d'au moins 1,6 million de dollars et étant prêt à investir 800 000 dollars au Canada en échange de leur résidence. Donc, c'est un programme assez douteux à différents niveaux. Actuellement, il y avait près de 60 000 personnes en attente d'être acceptées pour ce programme-là.
60 000?
60 000 investisseurs,
wow. Okay.
Principalement d'Asie, et qui, eux, sont pas très contents non plus. Faut savoir aussi que le Québec avait son propre programme un peu semblable, qui a supposément permis des investissements de plus de près de 600 millions de dollars entre 2000 et 2012 juste au Québec. Donc, c'est vraiment un programme bon qui était assez loin, disons, à l'opposé du programme pour les réfugiés, pour l'asile. C'est vraiment l'autre extrême. Et évidemment, beaucoup de gens reprochaient à ces mesures-là d'être un moyen pour les riches d'acheter leur entrée au pays, évidemment. Donc, le fédéral l'a pas fait par progressisme idéologique, évidemment. Ça a été une mesure d'économie parce que ce programme-là coûtait cher à administrer. Et j'imagine qu'il nous réserve une surprise semblable dans le même genre, pour faire venir les bons immigrants qui ont de l'argent. Sinon, toujours en économie et immigration, étude assez intéressante que l'Institut de la statistique du Québec a sorti il y a quelques semaines aussi, qui parle de la pauvreté chez les immigrants au Québec. On parle ici que dans l'ensemble des travailleurs québécois, 4% officiellement sont sous le seuil de la pauvreté. J'en doute un peu, mais enfin, on peut parler peut-être des travailleurs à temps plein, j'imagine, c'est pas précisé. Mais chez les immigrants, c'est 11%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence assez importante au niveau de la pauvreté des gens qui travaillent, on le précise. Et qu'au Québec, c'est plus élevé que dans toutes les provinces du Canada. Donc, il y a des questions à se poser, évidemment, sur l'intégration, entre guillemets. On parle, par exemple, que la moyenne canadienne est de 8%. Pour Québec, c'est 11%. Donc, d'immigrants travailleurs qui sont sous le seuil de la pauvreté. Évidemment, c'est plus important chez les travailleurs qui ont une faible scolarité. Quand on parle, par exemple, d'un secondaire 5, c'est 14% pour les immigrants qui ont secondaire 5 contre 5% pour les natifs du Québec, si on peut le préciser comme ça. Chez les diplômés universitaires, on parle de 2% dans la population native du Québec et de 10% chez les diplômés universitaires ressortissants originaires de d'autres pays. Et on parle quand même que les immigrants comptent pour 20% de l'ensemble des diplômés au Québec, mais qui représentent la moitié de ceux qui sont sur le seuil de pauvreté, même avec un diplôme universitaire. Donc, il y a vraiment des chiffres assez importants. Puis, évidemment, les gens, plus ça fait peu de temps qu'ils sont au Québec, évidemment, le taux de chômage ou de pauvreté est plus élevé. Et évidemment, ben, on parle ici, entre autres, de la question des diplômes non reconnus, des études et des formations non reconnues, évidemment. On parle aussi de la discrimination, de la difficulté à intégrer le marché du travail ou à être reconnu comme travailleur. Et on peut conclure en disant que c'est pas parce qu'on travaille et qu'on a un diplôme qu'on n'est pas dans la pauvreté. Donc, tu savais, Karine, évidemment, mais il y en a qui pensent encore qu'un travail donne des gros moyens dans la vie, des gros moyens financiers.
Ouais, donc, tu travailles fort. Hein?
Ouais, au moins 80 heures, même au salaire minimum, c'est sûr. Tu peux avoir un revenu pas trop mal. Mais donc, c'est pour dire que l'intégration au Québec des personnes immigrantes au niveau du travail, il y a vraiment des énormes efforts à faire. En plus, qu'on voit que c'est pire que partout au Canada, donc je pense qu'il y a certains politiciens en campagne qui devraient se poser certaines questions, surtout ceux qui sont déjà au pouvoir. Sinon, on change de sujet, au niveau des migrants qui se révoltent, qui résistent un peu à leurs conditions. Deux cas récemment, l'enclave espagnole de Melilla, donc on parle de temps en temps, qui est qui est collé sur le Maroc. C'est une espèce d'enclave dans le Maroc où il y a beaucoup d'immigrants qui essayent par le Maroc de passer en Espagne, donc arriver en Europe pour avoir une chance d'être accepté en Europe. Il y a eu une espèce de manif, on pourrait dire une action dans le fond, il y a quelques semaines aussi. 150 immigrants qui ont forcé la clôture parce qu'on a une triple clôture grillagée qui sépare donc, je répète, cette enclave espagnole-là du reste du Maroc, près de la Méditerranée. Donc 150 qui ont forcé la clôture, 60 sont parvenus à rentrer. Évidemment, il y a eu des blessés, il y en a plusieurs qui ont été repoussés, arrêtés. On dit qu'ils se sont dispersés et ont essayé de se réfugier dans les maisons des habitants, mais on précise qu'ils ont été gentils avec les habitants espagnols de l'enclave de Melilla. C'est la police qui précise ça. Puis ça, c'est une clôture qui est symbolique parce que à peu près à chaque deux semaines, il y a des groupes de migrants, surtout d'Afrique subsaharienne, qui essaient de rentrer en Europe par là. Et puis, d'ailleurs, depuis 2006, ils avaient enlevé le barbelé qui est en haut de la clôture, mais ça a été remis récemment par le gouvernement espagnol, ce qui a été beaucoup critiqué aussi. Et vraiment, c'est une espèce de guerre d'usure entre les migrants qui campent autour et la police, la garde civile espagnole. Mais c'est vraiment un symbole en Europe, un peu entre l'Asie et l'Europe ou entre l'Afrique et l'Europe de la discrimination et de la forteresse Europe. Donc, on peut rappeler qu'en novembre, il y avait aussi 200... En novembre dernier, il y avait eu 200 immigrants qui avaient essayé de rentrer. Il y avait eu un mort quand même parmi les migrants aussi. Donc, ça joue assez dur. Et peut-être préciser les nombres qui sont assez impressionnants. En 2013, 3000 clandestins ont essayé de franchir cette clôture, tandis que c'était 1600 en 2012. Donc, on voit vraiment que c'est une possibilité d'entrée qui est assez populaire. Et aussi, on voit qu'il y a de plus en plus aussi de migrants africains qui se retrouvent au Maroc aussi pour essayer d'entrer en Europe. À l'autre bout du monde, on pourrait dire, en Australie, plus précisément en Papouasie, il y a eu 48 heures d'émeute dans un centre de rétention pour réfugiés sur l'île de Manus, que je ne connais pas, qui est dans les îles australiennes. Une personne est décédée, un réfugié est décédé et 77 autres ont été blessés. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que l'émeute a été causée par le fait des locaux qui ont attaqué le centre qui est tout récemment installé, parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'il y ait des migrants qui soient installés sur leur île. Et tout ça découle un peu de la politique australienne qui a décidé depuis l'année passée de renvoyer tous les demandeurs de statut, tous les demandeurs d'asile sur des îles isolées de l'Australie. Donc, qui même s'ils arrivent dans la capitale, ils arrivent à Sydney, ils arrivent ailleurs, sont renvoyés dans des centres isolés sur des petites îles où après il n'y a personne qui habite. Donc ça, c'est la nouvelle politique qui a été établie l'année passée, en 2013. Faut dire que c'est les travaillistes avant de perdre le pouvoir qui ont fait une vaste réforme de la politique du pays, donc un durcissement de leur politique migratoire. Et peut-être préciser aussi que quand la politique avait été annoncée en juillet, l'année passée, il y avait eu une grosse émeute dans un autre centre, dans une île isolée aussi, qui avait détruit 95% du bâtiment. Ça avait fait 60 millions de dollars de dommages. Et la police avait été complètement débordée. Ça avait vraiment traumatisé tout le monde. Mais on a continué quand même la politique d'isoler les migrants dans des centres. Puis ces centres-là, c'est des tentes. C'est pas des bâtiments. C'est vraiment des trucs qui sont supposés être temporaires. Donc, voilà. Fait que c'est sûr que les migrants qui ont été attaqués par les locaux sur place essayaient de fuir le centre et ça a provoqué des émeutes, enfin. Donc, on voit vraiment que un peu partout dans différents pays, le traitement des migrants, on a parlé de l'Italie souvent ici, on a parlé de la Grèce, de d'autres pays aussi et du Canada aussi. Donc, ça s'améliore pas du tout de ce côté-là. Peut-être une petite info aussi pour plus technique. Il y a une étude de l'IRIS qui vient de sortir sur les coûts de l'escalade sécuritaire au Canada depuis près d'une quinzaine d'années. Ce qui est intéressant de savoir, de retenir, parce que vous pouvez aller la lire, c'est une quinzaine de pages, mais c'est que les dépenses sécuritaires au Canada ont augmenté de 56% depuis 16 ans. Et là, on parle ici de services de renseignement, des corps policiers, des services carcéraux et aussi des opérations militaires à l'étranger, de la lutte au terrorisme. Donc, le budget sécuritaire est passé de 8 à 10% du budget de l'ensemble du budget fédéral. Et donc, c'est une augmentation de 9 milliards par année depuis 16 ans. Donc, on parle de chiffres assez importants qui vont pas à des programmes sociaux, évidemment, ou à toutes sortes d'autres initiatives plus sociales. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, juste un chiffre que je voulais vous dire. Et ma brève que je voulais vous garder aussi, vous l'avez peut-être entendu parler dans les médias, c'est par rapport à Guantanamo. On en parle de temps en temps, même si Omar Khadr est plus là, évidemment, il reste beaucoup de monde qui sont là. Torture et tous les moyens pour humilier, pour faire souffrir les détenus dits illégaux, mais qui sont des détenus illégaux aussi, parce que c'est pas légal de les détenir, donc qui sont détenus là-bas. Et il y a le groupe Skinny Poppy de Vancouver qui a révélé, un vieux groupe industriel canadien, qui a révélé qu'une de ses chansons était utilisée pour torturer pour priver de sommeil et torturer les détenus là-bas. C'est un des gardiens qui leur a appris, ça a l'air la nouvelle. Et on a appris par le fait même que des groupes comme Metallica aussi étaient utilisés pour faire souffrir à répétition les détenus là-bas. Autant aussi que Britney Spears et Barney aussi. C'est ce qu'on a su à travers ça. Et le groupe Skinny Bobby n'était pas d'accord qu'on étudie ces chansons pour faire souffrir des gens. Surtout que les droits d'auteur n'ont pas été payés. Donc, ils ont envoyé une poursuite de 666 000 $ au Pentagone américain. Et ils n'ont toujours pas eu de réponse pour l'instant. Alors, mise en demeure pour se faire payer les droits et qu'on arrête d'utiliser leurs chansons dans le cadre de politiques répressives contre des détenus.
OK, c'est pas juste pour le cash. J'étais un peu mal à l'aise.
Ah non, j'ai l'impression que 666 000, évidemment, c'est symbolique. Le 666, je pense que c'est beaucoup plus pour faire parler et aussi pour que ça arrête. Donc, non, je pense pas. J'imagine que s'il y avait de l'argent de l'armée américaine, ils pourraient le redistribuer. mais je pense pas qu'ils vont être payés demain matin par le Pentagone. Mmh, ouais. Donc, voilà toutes sortes de choses qui se passent dans l'actualité. Il y en a plein d'autres. Tenez-vous informés. Et aussi éventuellement dans les prochaines semaines, à part toutes les manifs qu'il y a pour différents cas de personnes en demande de statut, il y a aussi la marche Un statut pour tous et tous avec plein d'activités qui s'en vient aussi au mois de mai.
OK, au mois de mai. Donc, on garde ça en tête.